Bonjour et bienvenue à votre émission Au rythme de l'Église. Je m'appelle Mario Ringuette et je serai l'animateur. Aujourd'hui, début août, je suis en compagnie de Monseigneur Claude Champagne qui viendra nous entretenir sur deux sujets ce matin. Le premier sujet serait sur la fête du Père éternel et le deuxième sujet sur les reliques. Qu'en pense-t-on? Donc, tout d'abord, Monseigneur, bonjour et bon matin.
Bon matin à toi, Mario.
Merci d'avoir accepté de vous laisser déranger dans vos vacances.
Cette semaine, là, j'ai travaillé ici à préparer des choses qui viennent bientôt. Là. Oui.
Donc, Monseigneur, il y a un certain courant qu'on a vu passer à un moment donné dans soit des revues liturgiques ou des choses comme ça, qu'il y aurait un mouvement institué sur la fête liturgique du Père éternel. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire un peu là-dessus?
Ce que j'en sais, moi, quand j'ai célébré dans le Humarawaska quelques reprises, j'ai eu un couple qui m'a approché et qui faisait la promotion d'une fête liturgique adressée au Père éternel. Mm-hmm. Bon, écoute, oui, dans la liturgie, il n'y a pas de fête adressée au Père éternel, mais Jésus, l'Esprit et le Père, pour nous, c'est le Dieu unique. Mm-hmm. Et oui, Jésus a parlé beaucoup du Père. Il nous a enseigné notre Père, que ce Dieu à l'origine de tout, le Dieu créateur, il est Père. C'est lui qui engendre. Et quand les apôtres étaient un petit peu impatients pour dire « Jésus, tu nous parles tellement du Père, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Et Jésus dit « Philippe, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, tu n'as pas compris que quand tu me vois, tu vois le Père. » Donc, le Père... Évidemment, il n'y a pas visage humain. Le Fils s'est incarné, a pris chair de notre chair. Donc, il est plus facile à visualiser puis à imaginer. Quand j'étais petit gars, le Père, on le représentait comme un vieux barbu, barbe blanche dans les nuages. Mais bon, on comprend bien que c'est une image. Alors, le Père, on ne peut pas le visualiser de cette façon-là. Est-ce qu'il faut une fête particulière? Pour le moment, les autorités de l'Église n'ont pas acquiescé à ça. Est-ce qu'ils y pensent? Je ne pourrais pas te dire. Mais il me semble que quand on célèbre Jésus et l'Esprit, on sait que c'est le Père qui est derrière, qui a envoyé le Fils et qui a envoyé l'Esprit.
Parce que même dans la liturgie à l'Église, quand on va à la messe, on fait souvent référence au Père.
Non seulement on fait référence au Père, mais dans l'ensemble, regardez bien les prières, on s'adresse au Père.
Père, exact.
Parfois, on s'adresse à Jésus, mais la plupart du temps, on s'adresse au Père.
Puis, est-ce que, vous en avez parlé un peu tantôt, mais il n'existe pas nécessairement de fête officielle pour...
Non, il y a un petit groupe, il y a ce groupe-là qui cherche à promouvoir cette fête liturgique, qui se rassemble, je ne sais pas même si on fixait une date, eux, pour célébrer le Père éternel, mais il y a peut-être des gens qui se réunissent en pensant au Père éternel, OK? Mm-hmm. Alors, il n'y a pas de fête officielle.
Ça, on pourrait conclure que, oui, quand on va à la messe, on célèbre le Père éternel.
Ben Dieu, le Père est au cœur de tout ça, bien sûr.
Exact.
S'il n'y avait pas lui, il n'y aurait pas eu le Fils et l'Esprit.
Exact. Comme deuxième sujet, Monseigneur, ce matin, le questionnement m'est venu d'un jeune pendant la neuvaine, parce qu'on vient de terminer la neuvaine la semaine passée, qu'il me demandait, qu'est-ce que c'est une relique, puis à quoi ça sert?
Une relique, c'est quelque chose qui nous rappelle ou Jésus, la Vierge Marie ou les saints. Alors parfois, et ça c'est déjà au tout début de l'Église, lorsqu'il y a eu les persécutions et les martyrs, évidemment on allait prendre la dépouille du martyr qui avait été tué, et les chrétiens vénéraient la dépouille, disant, bien, cette dépouille-là représente quelqu'un qui a été prêt à donner sa vie au nom de l'Évangile, au nom de la foi. Et je pense que quand on célébrait l'Eucharistie dans les catacombes, on célébrait sur les tombeaux des martyrs. Okay. Donc, sur le tombeau qui avait la dépouille du martyr. Et c'était les premières reliques.
Okay.
Et c'est les reliques par excellence. Depuis ce temps-là, d'autres personnes qu'on a considérées vraiment des personnes accomplies au niveau de la vie chrétienne qu'on a déclaré saint, encore là, d'avoir des parties de son corps, c'est comme, ça nous renvoie à la personne du saint en question qui est déjà passé à la maison du Père. De là, on en est venu à vénérer les vêtements qu'a porté la personne ou des objets qui ont été utilisés par cette personne-là. Mais encore là, les vêtements, les objets, c'est pour renvoyer à la personne, reconnaître sa sainteté, reconnaître qu'elle est un exemple pour nous. Et pour nous, les saints sont des gens qui intercèdent pour nous. Donc, les reliques nous renvoient à Jésus, si c'est une relique autour de Jésus ou de Marie, ou à tout autre saint. Alors, comme je dis, reconnaître la qualité de la personne, se laisser interpeller et faire confiance au fait qu'elle peut invoquer, peut être intermédiaire pour nous lorsqu'on demande quelque chose au Seigneur.
Quand vous parliez tout à l'heure de d'ossements ou de vêtements ou d'objets, on fait référence un petit peu aux reliques de première classe, deuxième classe, troisième classe.
On s'est mis à distinguer ça. Oui. On a dit une relique de première classe.
Plus importante.
Il s'agit d'un élément. Des fois, ça peut être une petite partie d'os. Ça peut être... Mais c'est un élément qui provient du corps de la personne qu'on vénère.
Okay.
Alors que deuxième classe... C'est des objets, des vêtements qui ont appartenu à cette personne-là. Troisième classe, c'est d'autres objets qui ont touché le corps ou surtout le corps. Pensez à cette dame dans l'Évangile qui dit « Si je parviens à toucher le vêtement de Jésus, je vais être guéri. » C'est un peu dans cet esprit-là. Mais de penser que pour nous, les objets, les reliques, c'est pour nous renvoyer aux personnes puis nous renvoyer finalement à Dieu qui a manifesté sa vie dans la vie de ces personnes-là.
Si on prend aujourd'hui un exemple très, très facile, comme le frère André qui a été canonisé il n'y a pas si longtemps, on a son cœur à l'oratoire Saint-Joseph.
Ça, oui, on a retiré son cœur de son corps. Mm-hmm. Son corps est dans un tombeau dans l'oratoire, mais son
corps
est particulièrement vénéré. Mm-hmm. Dans une chasse qui le protège, mais on a jugé bon en disant, cet homme-là qui a aimé le Seigneur, qui est engagé, qui a aimé Saint-Joseph, sa dévotion, on a jugé bon d'exposer son cœur.
J'aurais juste une petite question piège pour vous. Au début de l'Église, il y a 2000 ans, j'imagine que ça prenait un peu plus de temps à... canoniser quelqu'un à devenir saint. Comment on fait pour savoir si ces reliques-là sont vraiment exactes?
Ah, bien là, ça, c'est une autre question. Écoute, pour nous, tu sais, le processus de canonisation, comme on le connaît, ça, c'est dans le deuxième millénaire. Dans le premier millénaire, les martyrs, on ne posait pas de questions, ils avaient donné leur vie pour leur foi. On les jugeait saints dès le début.
OK.
D'autres personnes sont mortes en odeur de sainteté. Il n'y avait pas donc de processus approfondi comme aujourd'hui.
OK.
Quand, c'est drôle parce que là, je suis un évêque, puis il y a des évêques qui voulaient préparer ce qui arriverait après leur mort.
OK.
Il y a donc des évêques qui avaient même déjà construit un sanctuaire où on pourrait venir les vénérer. Là, on a trouvé que c'était un abus. Et finalement, c'est devenu quelque chose de confié aux collaborateurs du pape à Rome. Et là, tout le processus pour déclarer un saint est devenu beaucoup plus approfondi, beaucoup plus... Il supposait beaucoup plus de temps, avec une foule d'exigences. On examine la vie de la personne. Est-ce que vraiment elle a vécu la foi chrétienne d'une manière héroïque? Est-ce qu'on a obtenu une guérison ou l'autre qui montre son pouvoir d'intercession? Alors, il y a des choses comme ça qui ont été élaborées avec le temps.
Si on prend juste dernièrement qu'il y a Mme Louise Normando qui est venue pour parler de San Carlo Acutis, lui, ça a été quand même phénoménal, comment ça a été vite.
Ça a été rapide, évidemment. Oui. Écoute, il n'a pas vécu aussi longtemps. Il a vécu 15 ans. Les témoins de sa vie étaient moins nombreux.
Sa marque comme ça.
Il n'a peut-être pas écrit tant que ça, même s'il a travaillé sur Internet, qu'il a recueilli tous les mystères, les miracles eucharistiques dans l'histoire. Et déjà, il avait frappé les gens autour de lui.
Exact.
Rapidement, sa cause devient connue. Des gens le prient et obtiennent sûrement une guérison pour qu'il soit déclaré bienheureux. Et une seconde guérison examinés par des médecins qui ne partagent pas notre foi, qui donc qui vont être très rigoureux,
oui.
Qui a fait en sorte qu'il peut être déclaré saint par le pape Léon dernièrement.
Exact. Bien, Monseigneur, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé un peu plus sur le Père éternel et sur les reliques qu'on peut vénérer un peu partout dans les sanctuaires de Saint-Anne, Saint-Anne-de-Beaupré, l'Oratoire.
Bienvenue pour les questions qui viennent. En tout cas, si ça peut éclairer, j'en suis heureux.
Merci beaucoup. Donc, je souhaite à chacun et à chacune un bon dimanche et une bonne semaine.